es merveilleux. Tu es bon. Merci Seigneur. Merci pour ces moments que tu nous donnes dans ta présence. Merci parce que tu es là. Tu es là Seigneur, nous sentons ta présence. Nous sentons que tu es en action Seigneur dans nos vies. Nous sentons que tu nous prends en charge, oh Dieu. Voilà pourquoi nous voulons nous soumettre à toi. Nous abandonner Seigneur à tes pieds. Que tu règnes. Que tu règnes en ces lieux. Que tu règnes dans nos vies. Oui, que ton règne vienne. Bénis ta parole, Seigneur. Sanctifie-la, ô Dieu. Et fais du bien à ton peuple. Ce matin, au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée qu'il nous donne. Une merveilleuse journée. Nous avons la faveur de Dieu ce matin. Que son nom soit béni. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans les livres de Genèse, au chapitre 19. Nous allons lire du verset 12 au verset 23, et nous lirons aussi le verset 30. Genèse 19, 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le tri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi dans la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. » Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je m'y sauve. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Retenez bien ce nom, Tsoar. Lot quitta Tsoar, verset 30, pour la hauteur, et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Amen. Comme nous le savons tous bien, la vie est faite de choix. Nous opérons des choix, nous effectuons des choix chaque jour. Et ce matin, nous avons fait des choix. Chaque jour, nous sommes en train de faire des choix. Mais ce qui est important dans cette matière de choix, c'est que nous devons faire des choix au bon moment. Si nous faisons ces choix au mauvais moment, ça peut nous payer très cher. Et les bons moments pour opérer un choix, comme je dis que ce moment est très important, il ne faut pas rater les bons moments pour faire son choix. Et quel que soit le choix que nous allons faire, si nous le faisons à un mauvais moment, ça nous paye cash. Paye vraiment cash. Ce matin, je vais partager avec vous comme thème les choix de Lot. Les choix de Lot. Il a eu à opérer des choix, il a eu à faire des choix. Mais très souvent, tous les choix qu'il a opérés étaient des mauvais choix. C'était des mauvais choix. Donc nous allons voir les trois mauvais choix de Lot avant d'aborder les préalables à considérer avant de faire un choix. Et enfin, nous verrons si nous avons fait des mauvais choix, si c'est une fatalité ou pas. D'abord, les trois premiers choix de Lot. Nous allons nous attarder sur ces premiers points et les deux autres points, nous allons les passer vite, vite. Les trois mauvais choix de Lot. Lot, pour la première fois qu'il a fait ce choix, c'est dans Genèse chapitre 13, versets 10 à 11. C'est là où il a fait les mauvais choix. La Bible dit, « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel lui détruise Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar, dont il a vu la plaine des Jourdains. Cette plaine des Jourdains était composée de Sodome, Gomorre et Tsoar. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Donc avec Abraham, ils se sont séparés là. Et au verset 13, on dit que les gens de Sodome étaient des méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Le contexte est tel que et Abraham venait de sortir de là où il était quand Dieu l'appelait, l'a demandé d'aller dans un pays où Dieu lui-même l'indiquerait. Ce méfaisant, il est sorti avec son neveu Lot. Ils arrivent à un endroit donné. Il se fait qu'Abraham avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de troupeaux et beaucoup de serviteurs, beaucoup de bergers. Et Lot aussi en avait. Lot avait beaucoup de troupeaux et de serviteurs. Mais la contrée où ils étaient arrivés, la contrée était petite pour les deux groupes. Abraham va s'adresser à Lot parce qu'il y a une dispute entre les ouvriers ou les bergers de Lot avec ceux d'Abraham. Il y a une dispute. Abraham va dire à Lot, écoutez, nous sommes frères. Il n'est pas bon qu'il y ait dispute entre toi et moi. Nous devons nous séparer ici. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Donc choisis pour toi où tu vas aller. Comme ça, chacun pourra évoluer librement avec ses troupeaux et ses serviteurs. C'est ainsi que Lot va lever les yeux, il va voir la plaine du Jourdain, comme le jardin de l'Éternel. Ce n'était pas le jardin de l'Éternel, mais c'était comme le jardin de l'Éternel. Et c'était Sodome, Gomorre et Tsoar. Et il va choisir pour lui cette contrée-là. Mais le verset 13 vient insister en disant que les gens de Gomorre, les gens de Sodome, ses habitants, étaient des méchants, des grands pécheurs devant Dieu. Mais Lot, d'où vient que toi tu ne choisisses que cette contrée où il y a des grands pécheurs? Lot a choisi là où il y a des grands pécheurs, là où il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. C'est ça son premier choix. Vous allez me dire certainement, pasteur Eli Lot ne savait pas. Lui, il a vu. Quoi de plus normal après avoir vu et d'opérer un choix, de faire un choix comme celui-là? Je vais vous dire que Lot a tort de faire ce choix parce que sa responsabilité est pleinement engagée. Son choix ici est caractérisé par quelques éléments. Le premier, c'est que c'était un choix irrespectueux d'Abraham. Ce qui montre que c'est un mauvais choix parce que c'est irrespectueux d'Abraham. Il n'a pas respecté son oncle. Il aurait pu tenir compte du droit d'aînesse. Oui, c'est son oncle, son père, parce que l'oncle, pour nous ici, un neveu, c'est un fils. Son père lui dit, écoute, nous devons nous séparer. Fais un choix. Non, il aurait pu dire, non. Toi, tu es mon oncle. Le pasteur l'a dit ici plus d'une fois. Toi, tu es mon oncle. Commence le premier à choisir. Et moi, je ferai mon choix après. Mais lui, non. Il a dit, comme l'oncle, tu as dit, moi, je choisis. Il a déjà fauché à ce moment-là. Deuxième élément qui prouve que son choix était mauvais, c'était un choix dans la précipitation. Pour éviter qu'Abraham, son oncle, ne choisisse la meilleure contrée, lui devrait sauter premier. Il a vu. Mais si je dis à mon oncle de choisir premier, il risque de choisir. Non, il faut que je saute premier. Il a choisi en premier Sodome, Gomorrhe, tu vois. Troisième élément, son choix était égocentrique. Il n'a pensé qu'à lui-même. Il s'en fout de son oncle. Il n'a qu'à prendre ce qui reste. Moi, je prends la bonne partie, la meilleure partie. Et lui n'a qu'à prendre ce qui reste. Et enfin, ce choix était mauvais parce que c'était un choix charnel. Il a vu seulement ce qui frappe l'œil. Il n'a vu que ce que les yeux pouvaient voir. Il n'a pas vu au-delà de ce que les yeux ne pouvaient voir. Et très souvent, nous opérons des choix comme ça. Seulement ce que nous voyons. Et nous choisissons ce que nous voyons. Même dans le domaine du mariage, c'est ce que nous voyons. Il y en a qui ont fait des mauvais choix, qui ont raté des compagnes de leur vie parce qu'ils ont regardé à ce qui frappe l'œil. La personne s'est présentée, n'avait pas de voiture, n'était pas bien présentée. Mais dans cette personne, il y avait de l'avenir. Mais ils ont choisi pour lui, pour eux, ce qui frappe l'œil. Ça, c'est le premier choix, un mauvais qu'il avait fait. Le deuxième mauvais choix de Lot se trouve dans Genèse chapitre 19 que nous venons de lire. Ça, c'est le deuxième mauvais choix. Il a encore mal choisi. Au chapitre 19, nous avons lu à partir du verset 12. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu venait de visiter Abraham. Trois anges. Ça, c'est le chapitre d'avant. Il vient de passer par Abraham. Et Abraham les a reçus dans sa maison. Et il les a donné à manger. Et il les a mis à l'aise. Et ces gens ont prononcé des bénédictions pour Abraham. Il a reçu les anges, et parmi les anges, il a reçu l'Éternel lui-même. Et avant de partir, ils lui ont prononcé des bénédictions pour dire que Sarah, la saison prochaine, devrait accoucher, devrait concevoir et accoucher un fils. Et puis, deux sont partis à Sodome pour détruire Sodome. Quand ils arrivent, ils sont reçus par Lot. Lot les invite à entrer dans sa maison, ils refusent. Lot insiste, ils entrent quand même. Vous connaissez l'histoire. Et après, ces deux anges vont dire à Lot, « Qu'est-ce que tu as ici dans ta maison? Faites sortir tout ce qui est à toi, parce que nous allons détruire cette ville. Qui as-tu encore ici, gendre et fille, fils et fille ?» Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux. Mais Lot tarde et ne sort pas. Première erreur de son choix, c'est qu'il va opérer un choix tardif. Il perd tout le temps. La Bible dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme. Et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Premièrement, on lui avait dit, tout ce que tu as, gendre, fille, fils, femme, et tout tes biens, prends tout, sors avec. Il traîne le pied. Deuxièmement, on va lui dire, écoutez, puisque tu tardes, alors toi, ta femme et tes enfants sortez. Il n'y a plus question de tous les biens. Sortez. Il traîne encore. Puisqu'il tarde à prendre la décision, on les prend par la main des forces. Lui, sa femme et ses enfants, on les fait sortir. On les fait sortir de cette ville. Et on lui dit, on lui donne des ordres. Écoute, sauve ta vie sur la montagne. Et ne regarde pas en arrière. Écoutez la réponse de Lot. Lot leur dit, oh non, Seigneur. Il refuse. Il dit, « Non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je n'ai pu me sauver à la montagne. D'abord, il prend une décision tardive. Deuxièmement, il refuse d'aller loin. Il refuse d'aller loin. Il est le seul ici qui refuse d'aller loin. On te dit, écoutez, pour sauver ta vie, ne reste pas sur la plaine. Va un peu plus loin sur la montagne. Mais il refuse d'aller à la montagne. Vous savez, quand Moïse devrait délivrer Israël de l'Égypte, quand il s'est présenté à Pharaon pour lui dire, écoutez, l'Éternel demande à ce que son peuple sorte pour aller l'adorer dans le désert. Pharaon va dire, écoutez, vous allez partir, c'est moi les hommes. Moïse dit, non, pas les hommes, tous. Oh, d'accord, vous partirez tous, mais vous laisserez vos bœufs. Moïse dit, non, nous irons même avec nos fourchettes. Tout, nous allons tout prendre. Nous n'allons rien laisser. Mais ici, lui, on lui donne l'opportunité d'aller avec tout. Ça, c'était le premier point. Il a refusé d'aller avec tout. Et puis, il ne veut pas aller loin. Il veut rester. Et pourtant, on dit que ces villes-là, il y avait des grands pécheurs. Donc, il ne veut pas s'éloigner du péché. Il veut rester plus près du péché. Je sors quand même du péché. J'abandonne quand même ce péché. Mais je ne vais pas plus loin. Un choix qui ne veut pas aller plus loin. Aussi, c'est un choix qui respecte sa propre volonté. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Dieu lui dit, va à la montagne, monte sur la montagne. Il préfère faire sa propre volonté. Il préfère faire le choix de la plaine au lieu de celle de la montagne. Dieu l'attendait sur la montagne. Dieu nous attend sur la montagne et non pas sur la plaine. Sur la montagne. C'est là où il y a la provision. Ce n'est pas sur la plaine. Troisième mauvais choix, c'est le choix de la grotte. Il choisit pour lui la grotte. C'est lui-même qui a choisi de rester à Tsoar. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé d'aller à Tsoar. Dieu lui a dit, écoute, monte sur la montagne. Il a dit, non, je préfère cette petite ville, Tsoar. Mais l'autre quitta Tsoar, verset 30, pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Mais pourquoi tu vas encore craindre de rester à Tsoar? Tu voulais bien rester là-bas. Restez-y. Il habita dans une caverne, donc dans une grotte, lui et ses deux filles. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de cette histoire. Lot, qui avait des grands biens, qui est allé à Sodome avec beaucoup de richesses, des troupeaux et de serviteurs, va se retrouver dans une grotte, rien que lui et ses deux filles. Pourquoi? Pour avoir commis des mauvais choix. Il finit sa vie dans cette grotte, il va commettre l'inceste avec ses filles. La Bible dit que ses filles vont l'endormir après l'avoir, vont livrer de vin et coucher avec lui pour faire des enfants. C'est comme ça qu'on a eu les Moabites et les Ammonites, qui sont issus de la relation incestueuse de Lot avec ses filles. Mauvaise conséquence. Ça, ce sont les trois mauvais choix que Lot a fait dans sa vie. Deuxièmement, quels sont les préalables? Que devons-nous faire avant d'opter pour un choix donné? Que devons-nous faire? Il y a des choses que nous devons considérer avant de faire un choix. À la lumière de tout ce que nous avons lu, nous n'avons pas le temps pour faire toutes les lectures. Avant de faire un choix, nous devons voir plus loin. Nous devons voir au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Il faut voir plutôt l'avenir que de voir le présent.
Il faut avoir une bonne perception des choses. Vous savez, quand Lot a vu, après avoir levé les yeux, il a vu cette plaine comme le jardin de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui était resté pour Abraham? Apparemment, il n'était rien resté. Mais si vous voyez ce qu'Abraham a eu comme part, mais c'était merveilleux. Donc, quand nous voulons opérer, faire notre choix, première chose à considérer, c'est que nous ne devons pas nous limiter à ce que les yeux voient. Il faut voir avec les yeux de la foi. Parce qu'après tout, le présent n'est que le fruit du travail du passé. Même dans le cas du mariage. On ne sait pas ce que cet homme a fait pour avoir ce qu'il a. Mais si je peux me focaliser sur ce que je peux voir en avenir, même si aujourd'hui il n'y a rien, Dieu me bénira demain. Dieu va te bénir. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Parce que tu as fait un bon choix. Tu es avec Dieu. Il te bénira. Tu ne finiras pas comme tu es. Beaucoup de gens ne sont pas comme ils ont commencé. Parce qu'ils avaient fait un bon choix. Deuxième préalable, le moment de faire le choix. Il est important. Il faut faire ses choix au bon moment. Pas avant ni après. Il y a des conséquences pour tous les choix. Faire le choix au bon moment. Aujourd'hui, dans le monde footballistique, on est en train de critiquer un joueur congolais. Est-ce à tort ou à raison? Ça, ce n'est pas mon problème. Le plus important pour moi, c'est que d'aucuns pensent, parce que c'est un binational cet homme, il attendait être convoqué par une nation, une de ces deux nations, de ces pays-là en Europe. Et le Congo l'a invité plus d'une fois. Et maintenant, il s'est décidé de venir. Maintenant, il y a des critiques. Il aurait pu venir avant. Pourquoi il est venu maintenant? Non, au moins il est venu. Il y a des critiques maintenant. Mais le plus important pour moi, c'est que là, la critique se situe à quel niveau? Au moment où il devrait prendre le choix. Est-ce que c'est le bon moment maintenant? Est-ce que c'était le bon moment? Ou bien ça sera le bon moment? Nous devons prendre les décisions, les choix, les faire au bon moment. Et aussi, nous devons savoir que les choix que nous effectuons, nous les faisons pour nous et non pas pour les autres. Nous sommes les seuls qui vont assumer nos choix. Nous n'avons pas à nous laisser être influencés par les autres, parce que nous assumerons nous-mêmes nos choix. L'autre s'est retrouvé dans cette grotte seule. Et du reste, il n'a été influencé par personne. Troisième élément, c'est qu'avec Dieu, quand nous voulons faire un choix, nous devons des fois accepter le risque. Nous devons risquer avec Dieu. Nous devons risquer avec Dieu. L'autre pouvait seulement risquer et dire non, oncle, toi choisis le premier. Et c'est un risque de rater cette plaine. Des fois, il faut risquer avec Dieu. Des fois, il faut accepter de perdre avec Dieu. En réalité, avec Dieu, on ne perd pas. Tu peux perdre aujourd'hui avec Dieu, ça paraît perdre, mais demain, ce n'est pas une perte. Demain, cette perte-là sera transformée en des bénédictions. Parce que notre Dieu ne nous a jamais appelés à la médiocrité, il ne nous a jamais appelés à la pauvreté, il ne nous a jamais appelés au malheur, car il a un plan de bonheur pour chacun de nous. Dans Ecclésiaste 11, verset 1, il est dit, « Jette ton pain à la face des eaux. Avec le temps, tu vas le récupérer. » Mais Français courant dit, « Engage-toi dans une affaire, même en courant le risque. Tu pourras tu récupérer ça avec le temps. » Avec Dieu, par moi, il faut risquer. Nous devons apprendre à risquer. Nous n'allons pas mourir parce que Dieu est avec nous. Dernier élément, il faut choisir ce que Dieu nous propose. Il faut aller là où Dieu nous demande d'aller. Très souvent, Dieu met toujours deux choix devant nous. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il ne nous laisse pas de choisir, non. Il ne dit pas que j'ai mis la vie et la mort, choisissez entre les deux. Non, non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, mais il dit, choisissez la vie. Il nous prodigue les conseils. Qu'est-ce que nous devons choisir? Nous devons choisir la vie, pourquoi? Pour que nous vivions, nous et notre postérité. Donc nos choix d'aujourd'hui peuvent déterminer même le bonheur de notre progéniture. Parce que nous aurons fait un bon choix. Je dis que nous devons choisir ce que Dieu nous propose. Dieu demande à Lot d'aller où? Sur la montagne. La Bible dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il y a la provision à la montagne. Là où Dieu nous appelle, il prévoit la provision. Rien n'y manque. Si nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, croyez-moi, rien ne va manquer. Même si apparemment vous voyez qu'il n'y a rien, mais puisque Dieu est dans l'affaire, ça va juste changer en bien pour vous. Abraham, en montant sur la montagne, c'est pour aller sacrifier son fils, Isaac. Jamais faisant, Isaac lui pose la question. Père, je vois le feu, je vois les bois, mais où est l'agneau pour l'offrande, pour l'holocauste? Abraham lui répond en disant, l'Éternel c'est pour voir. Jéhovah juré. Le Jéhovah juré n'est pas le Jéhovah juré de la plaine. Il est le Jéhovah juré de la montagne. C'est sur la montagne qu'il sera pourvu. Et notre Seigneur Jésus a été crucifié sur une montagne. Quelle provision sur la montagne de Golgotha! Quelle provision! Il y a le salut sur cette montagne. Il y a la guérison. Il y a la santé. Il y a la vie. Il nous demande de monter sur la montagne. C'est lui qui nous demande. Mais nous, qu'est-ce que nous choisissons? Nous choisissons la plaine. Oui, il est le Dieu aussi de la plaine. Il est le Dieu des vallées. Il est le Dieu de partout. Mais s'il nous demande de monter, d'aller sur la montagne. Amen. Enfin, pour terminer notre troisième point, je suis allé vite pour le temps, mais je constate que j'ai encore un peu plus de temps. Le dernier point, c'est la seconde chance. Amen. La deuxième chance. Oui, nous avons fait des mauvais choix. Nous sommes en train de souffrir. Est-ce une fatalité? Est-ce que c'est fini pour nous? Est-ce que nous ne pouvons pas nous relever? Ce matin, je vais dire à quelqu'un que c'est possible de se relever. Même si tu avais fait des mauvais choix, c'est possible aujourd'hui de se relever. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Peu importe ce que vous avez fait. Peu importe. Mais quand vous revenez à Dieu, reconnaissant avoir opéré des mauvais choix, reconnaissant avoir choisi pour le péché, et maintenant vous voulez abandonner cela et venir vers lui, il nous donne la deuxième chance. Vous savez, dans la grotte, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que les filles de Lot ont enivré leur père et ils ont couché avec lui et ils ont fait des enfants. Moab et Ammon. Et puis plus tard, quand Israël sortait de l'Égypte, il devrait traverser les territoires des Moabites, les fils de Lot, il devait traverser aussi les territoires des Ammonites. Dieu les a dit, écoutez, vous allez traverser tout simplement ces territoires. Ça appartient aux enfants de Lot. Je ne vous donnerai rien là-bas. Là, c'est pour les enfants de Lot. Et les enfants d'inceste. Dieu pense à eux aussi. Ça, j'ai donné aux enfants de Lot. Et puis, plus tard encore, quand, bien sûr, avant, quand ils traversaient, les enfants de Lot n'ont pas traité Israël bien. Ils ne l'ont pas bien traité. Dans Deutéronome, chapitre 23, verset 3, Dieu va maudire ses enfants encore. Il va maudire les enfants de Lot. il va les maudire à perpétuité. Pour dire qu'eux n'entreront pas dans le temple. Les Moabites et les Ammonites. On peut lire Deutéronome. Deutéronome chapitre 23. Verset 3. Je crois avoir pris la bonne référence. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Donc, il les a maudits. Oui, ils ont mal fait. Alors, ils sont maudits. Donc, ils peuvent dire que je suis maudit. Je suis maudit. Tout ce que j'ai fait là, je suis maudit. On m'a maudit. Tout ça, oui, ça peut être vrai. Mais si vous lisez maintenant Matthieu chapitre 1, verset 28, il y a de merveilles là-bas. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas? On trouve que parmi les ancêtres de Jésus, vous trouvez une Moabite à la personne de Ruth. Comment expliquer qu'une Moabite soit l'une des arrière-arrière-parentes à Jésus-Christ. La femme de Boaz qui donnera Obed. Et quand vous suivrez jusqu'à David, jusqu'à Jésus-Christ. Vous voyez que ce Dieu-là, c'est un Dieu de deuxième chance. Même si on a mal fait, même si on s'est éloigné de lui, et qu'est-ce que Ruth avait fait pour devenir arrière-arrière, parent de Jésus. Qu'avait fait cette femme? Vous connaissez l'histoire. Quand Naomi a perdu ses fils, après avoir perdu son mari, il n'avait plus rien. Elle voulait rentrer dans son pays parce que Dieu avait visité son pays. Quand il voulait rentrer, il a dit à ses deux belles filles, Orpa et Ruth, écoutez, vous rentrez. Rentrez chez vous, je n'ai plus des enfants à vous donner comme mari. Allez servir vos dieux et rentrez chez vous. Ruth a dit non, moi je ne rentre pas. Alors Orpa est rentrée vers ses dieux. Ruth a dit non, moi je ne rentre pas. Moi je vais aller avec toi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Depuis ce jour-là, Ruth a coupé cette malédiction. Cette personne est coupée parce qu'il a opté pour les dieux d'Israël. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dès que tu viens en Jésus, cette malédiction est coupée. On est devenu une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature après avoir reçu Christ. Les choses anciennes sont passées. Les malédictions sont passées. Toutes ces mauvaises choses sont passées. Tu es devenu une nouvelle création. Tu reviens à Dieu. Il y a la deuxième chance. Il te donne la deuxième chance. La deuxième chance est possible, frère. Que dire de David? David, qui a pris la femme d'autrui, Bathsheba. Et puis après, cette femme est tombée enceinte. Elle a appelé son mari qui était en guerre, au front. Il dit, écoutez, rentre-toi à la maison pour camoufler son péché. Mais Uriah a refusé. Et puis David a dit, ok, comme tu ne veux pas, il renvoie au champ de bataille avec une lettre disant au chef d'armée de placer cet homme dans l'endroit où il y a l'embuscade et que cet homme meure. Donc David a tué Uri par l'épée des ennemis et Dieu n'était pas content. Dieu lui a envoyé un prophète pour lui dire et David a dit non, un homme qui a posé un tel acte, il mérite la mort. Et le prophète lui dit, exactement, il mérite la mort, c'est bien toi. Tu mérites la mort. Et tout de suite, David s'est repenti. David s'est repenti, il a reconnu sa faute. Et à l'instant même, il a bénéficié de la seconde chance. Parce qu'il devrait mourir, il n'était plus mort. Et même, Dieu va lui donner avec cette même femme un roi, le roi Salomon. Que dire de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. On l'a amenée à Jésus. On a dit, celle-ci mérite la mort par lapidation. Jésus a baissé sa tête en train d'écrire par terre. Et puis il leur pose la question et dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette premier la pierre. Et il baisse la tête, commence à crier par terre. Et chacun accusé par sa conscience, comme ça, s'est retiré l'un après l'autre, jusqu'à ce que tous soient partis. Et la femme est restée avec Jésus. Jésus pouvait prendre la pierre et jeter cette femme, parce que lui n'avait jamais commis un moindre péché. Mais Jésus lui a dit, écoutez, moi non plus je ne te condamne pas. Je te donne une seconde chance. Va et ne pèse plus. Il est le Dieu de seconde chance. Amen. Les choix de Lot. Les choix de Lot peuvent être aussi nos choix à nous. Il nous est arrivé d'opérer des mauvais choix pour lesquels aujourd'hui nous en payons le prix. Mais Dieu peut nous restaurer ce matin. Nous allons courber nos têtes, nous allons prier. Je ne sais pas si ce matin, il y a des gens qui ont besoin de la seconde chance. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a besoin de la seconde chance? Si tu as besoin de cette seconde chance, tu t'élèves là où tu es, nous allons prier le Seigneur. Tu as besoin de cette seconde chance, lève-toi, on va prier le Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Et moi, je dirais mieux d'ailleurs, qui parmi nous ne fait pas de choix? Qui est celui qui ne fait pas de choix? Ah non, je repose la question. Qui est celui qui chaque jour ici ne fait pas de choix? Et dans tout ce qui a été dit ce matin, frères, sœurs, chacun s'est reconnu. Si tu sais faire des choix, c'est l'occasion. Et j'aimerais bien dire encore, si tu veux faire de bons choix, car faire le choix, nous faisons des choix, mais faire le bon choix, ça n'appartient pas à l'homme. Puisque ma Bible me dit, il n'y a qu'un seul qui sonde même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Il y a un seul qui sonde même les profondeurs de Dieu. Et celui qui sonde les profondeurs de Dieu peut te donner à faire le bon choix. Et celui-là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut vraiment se connecter à l'Esprit de Dieu? Quelqu'un veut se connecter à l'Esprit de vie? Quelqu'un veut se connecter à l'Esprit qui lui conduira désormais à faire le bon choix et à faire le choix au bon moment? Alléluia. N'hésite pas à faire. Nous n'allons pas te supplier. Parce que toi seul, tu connais ce qui se passe dans ton cœur. En ce moment même, tu restes. Tu vois, tu es en train d'hésiter entre faire le choix de se mettre debout et le choix de rester assis. Le bon choix ce matin, frère, sœur. Ton éternité dépend de ton choix, de ton choix, de ton choix. Où tu veux l'éternité, où tu veux le passer avec l'ennemi. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Papa Ernest, reviens s'il vous plaît. Alléluia. Jésus.
Précieux Père Céleste, merci pour ce beau matin. Un matin où tu es venu nous rencontrer par ta parole. Oui, Seigneur. Ton serviteur a si bien dit que toute la vie est faite de choix. Et ce matin, personne au milieu de nous ne peut se mettre à l'écart disant qu'il n'a pas à faire de choix. C'est tous les jours et à tout moment. Mais ce matin, ta parole est venue nous restaurer. Merci pour cette fraîche restauration, Seigneur. Il est écrit, il n'est pas au pouvoir de l'homme de diriger ses pas pendant qu'il marche. Alors ce matin, prends-nous en charge, Saint-Esprit, afin que nous puissions faire, selon ta volonté, de choix pour l'éternité. Car étrangers et passagers, nous sommes sur cette terre. Mais nous voulons que tu nous tiennes par la main afin que nous puissions opter pour des choix qui sauvent. Merci parce que ce matin tu t'es présenté comme ce Père qui nous offre une seconde chance. Alors Seigneur, viens pardonner le peuple afin que Dieu, nous ne puissions pas périr, mais que nous puissions trouver uniquement auprès de toi, le salut qui vaille. Merci de nous bénir. Merci de nous relever par ta parole ce matin, Seigneur. Parce que tu ne veux pas que nous périssions. C'est pour cela que Christ est là ce matin. Merci par cette parole qui a restauré.